Bonjour à tous, vous m'entendez ?
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui.
Je vais essayer de... Si tu veux mettre... Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Juste un tout petit peu la diapo avant. Ben ça fait rien, reviens sur ces loups tétés. C'est pas... En fait, je poursuis... Je change rien. Vous voyez la photo là, au-dessus ? Qui est sur la photo ? Alors normalement, là il y a Denis qui va faire un commentaire. C'est le commentaire qu'il a fait la dernière fois. C'est que c'est pas Jésus, c'est des acteurs qui vont jouer dans un film. C'est ce que tu m'avais fait la dernière fois. Et c'est tout à fait juste, Denis. Ce sont des acteurs qui, effectivement, c'est une image d'un film. De Jésus et de ses disciples. Et donc ce matin, je vous propose, comme la dernière fois, de retourner dans les évangiles, et je voudrais m'adresser en particulier à ceux d'entre vous qui sont enfants de Dieu pour des fois 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être, et pour les inviter à faire un bout de chemin avec moi pour redécouvrir Christ, redécouvrir ce qu'il a fait, redécouvrir... Et quelque part se laisser éblouir à nouveau. Et donc pour vous, les vieux routards de la vie chrétienne, qui avaient lu ces textes qu'on va lire peut-être 100, 200 fois, 300 fois, je ne sais pas, Morissette, combien de fois tu as lu le sermon sur la montagne ? Peut-être 300 fois, 500 fois. Mais on peut à nouveau le redécouvrir et se laisser éblouir par ce qu'il nous dit, et c'est ce que je souhaite ce matin. Si vous êtes plus jeune et que vous ne l'avez pas lu 100 fois ou 200 fois, ben c'est l'occasion de découvrir encore plus notre Seigneur. Et puis, si dans la salle vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas fait ce choix essentiel, ben c'est l'occasion de découvrir que Jésus-Christ est beaucoup plus qu'un simple homme. Et donc ce matin, je vous propose un texte dans Luc, qu'on a l'habitude d'appeler le Sermon sur la montagne, qui est un texte vraiment révolutionnaire. Et je l'ai intitulé le titre de mon message « La communauté de l'agneau ». Alors c'est pas un terme biblique, clairement c'est pas un terme biblique, mais je l'ai fait pour se décaler justement, pour que vous alliez le retenir ce terme-là, parce que justement il n'est pas habituel. Parce que notre Seigneur nous parle d'une communauté de disciples et de comment vont vivre ces hommes qui suivent le Christ. Voilà, je vous invite à... On a chanté un dernier chant qui nous dit « Parle-moi, je veux être assis à tes pieds et t'écouter, c'est ce qu'on va faire. » Donc je vous propose d'ouvrir nos Bibles en Luc 6, et on va commencer au verset 12, un tout petit peu avant le sermon sur la montagne. Alors j'ai mis 36, mais c'est pas ça d'ailleurs, oula, j'ai des... C'est pas du tout ce que j'ai... Bref, c'est pas ce qui est écrit là. On commence Luc 6 au verset 12. Et on va lire jusqu'au verset 35. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et l'en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et vous rejettera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes. Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien, celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Mais si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est une première partie de ce sermon sur la montagne, et la prochaine fois je ferai la deuxième partie. Si tu veux juste avancer, j'ai voulu commencer par ce premier verset parce que on a chanté « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Je voulais quand même souligner ça. Certains s'interrogent, mais comment prendre une bonne décision sans me tromper ? Comment discerner la volonté de Dieu ? Regardons Jésus. Il passe une nuit à prier. Alors quand je dis ça, je me sens tout petit parce que manifestement j'en suis loin. Mais la Bible n'est pas compliquée. Prenons cette habitude de prier et pas prier courtement, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et avant de choisir ses disciples, on voit qu'il va choisir ses 12 apôtres. Avant de faire ce discours, ce sermon si puissant, qu'il a juste passé une nuit dans la prière avec son Père. Que ce soit vraiment pour nous un exemple. Donc dans ce texte, on voit qu'il va choisir ses 12 apôtres, qu'il va appeler apôtres et qu'il va envoyer plus tard, et qui passeront 3 années à ses côtés. Et face à Jésus qui va faire ce sermon, ce qu'on appelle ce sermon sur la montagne, vous avez deux groupes. Le premier groupe, c'est ce que j'appelle un peu de manière artificielle la communauté de l'agneau. C'est ces 12 apôtres, ces 12 disciples qui l'ont suivi. Et par extension, c'est tous ceux qui vont le suivre. C'est tous ceux qui vont accepter son appel, qui vont répondre à son appel et qui vont le suivre. Et puis il y a le reste de la foule. Il y a tous ceux qui sont venus parce qu'il se passe quelque chose. Tous ceux qui veulent voir les miracles. Mais tous ceux qui ne répondront pas à son appel et qui vont se détourner. Dans ce message, il s'adresse, et on va le voir plus tard, d'abord à cette communauté de l'agneau, d'abord à ses disciples. C'est d'abord à eux qu'il leur parle, c'est d'abord à eux qu'il enseigne, et après, à toute la foule, en les invitant à faire le choix radical de le suivre. Et pour revenir à l'illustration de Chagall, dans ce texte-là, il y a un vrai contraste entre ceux qui suivent les disciples et ceux qui se détournent et qui ne répondent pas à l'appel. Ce texte est d'une... Il est clivant. Il y a ceux qui sont disciples et ceux qui ne sont pas. Si tu veux avancer... Alors il y a deux textes du sermon sur la montagne. Il y a celui de Matthieu 5-7 et celui de Luc 6. On trouve deux textes, mais ils sont différents. J'ai juste noté ici quelques différences. Celui de Matthieu est beaucoup plus long. Il y a un vrai passage sur la loi, qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Luc. Il y a une attaque très forte contre l'égalisme en Matthieu, qu'on trouve un peu en Luc, mais qu'on trouve... Enfin, c'est beaucoup plus atténué. On trouve le Notre Père dans Matthieu. Et puis, les béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes, c'est-à-dire le fait de dire « heureux », ils sont vraiment différents. Si vous regardez juste en Matthieu, vous avez 9 fois, il est dit « heureux ». Il y a 9 « heureux ». Donc, vous n'avez aucun malheureux. A l'inverse, dans Luc, vous avez 4 heureux et 4 malheureux qui se répondent. On va le voir tout à l'heure. Vous allez trouver des différences où les termes ne sont pas les mêmes, même s'ils se ressemblent. Vous avez par exemple, en Matthieu, il est dit « heureux les pauvres en esprit ». En Luc, ce n'est pas les pauvres en esprit, c'est « heureux les pauvres ». De la même manière, il est dit « heureux les ceux qui ont faim et soif de justice ». C'est pas ce qui est écrit en Luc, c'est « heureux ceux qui ont faim ». C'est pas tout à fait la même chose. Et donc on s'est beaucoup interrogé, est-ce que c'est un discours? Est-ce que c'est deux discours différents? Vous avez un point aussi, si on lit le détail, on va pas le lire, mais là il est dit qu'il descend sur un plateau, en Matthieu il monte sur une montagne. Et on s'est interrogé, est-ce que c'est deux discours différents, deux situations différentes, une seule? Est-ce que... Il y a des problèmes de traduction, en disant certains oubliaient certains mots, en fait c'est le même discours. Personnellement, je crois qu'il n'y a pas d'erreur de traduction, il n'y a pas de manque, mais que Jésus a voulu dire des choses un peu différentes dans chaque évangile. Ces deux sermons qui ont été très cohérents, mais qu'on pourrait dire un regard légèrement différent. Et ce matin, j'ai choisi de prendre le regard de Luc, qui est un petit peu différent, qui est notamment le texte de Matthieu est très tourné vers les Juifs. Celui de Luc est un petit peu différent, c'est celui-là que j'ai choisi. Et je vais vous proposer deux niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture, c'est le niveau individuel. Jésus parle à chacun de ses disciples. Et un deuxième niveau de lecture qui est plus communautaire. Il parle à un groupe, ses disciples, ceux qui le suivent. Et si tu veux avancer, voilà. Lorsque dit « Heureux vous qui êtes pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront », le premier encouragement, il est pour ces 12 apôtres qu'il a choisis. Il est pour ses disciples qui, et c'est les références que j'ai mises en Luc 5, où il est dit qu'ils ont tout laissé. Lorsque Jésus les a appelés, ils ont tout laissé derrière eux. Leur maison, leur bien, leur métier, pour suivre Christ. Alors ils ont tout, voilà, ils sont pauvres maintenant. Ils vont souffrir de la faim, ils seront rejetés des hommes, mais ils sont heureux parce qu'ils ont le Christ, parce qu'ils suivent le Christ, parce qu'ils ont rencontré Dieu. Et qu'il est préférable de suivre le Christ, même s'il y a un prix à payer. Il y a quelques semaines, Clément, dans un message, faisait le jeu de mots en disant... Il y a la grâce sans prix, la grâce qui n'a pas de prix, celle que Dieu nous offre. Et puis il y a en parallèle parfois le prix de la grâce. Il faut parfois payer le prix. Et ses disciples, ses apôtres ont payé le prix. Mais ils sont heureux. Cet encouragement individuel est aussi pour tous ces disciples de tous les temps qui vont traverser l'épreuve, qui vont traverser la persécution. Qui vont traverser le rejet. Et je cite juste cette parole de 2 Pierre qui dit « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » De tout temps et encore de nos jours, des chrétiens perdent tout, sont dans la faim, dans la douleur, sont rejetés, exclus. C'est parfois le prix à payer. Et quelque part, on est, j'allais dire, des chrétiens, à part quelques-uns et à part dans quelques circonstances où parfois nous avons à payer le prix de suivre Christ, on ne vit pas les choses comme ont pu vivre les apôtres ou comme vivent l'Église persécutée. Néanmoins, pour chacun d'entre nous, chacun de ceux qui sont ses disciples, c'est un encouragement. Jésus peut vous dire heureux. Heureux es-tu parce que tu me connais. Et même si actuellement tu es affligé, même si tu traverses des difficultés, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient personnelles, tu es avec moi, tu sauras consoler dans cette vie et dans l'éternité. Si tu veux avancer, ça c'est le premier niveau de lecture qui est individuel, et Dieu parle à ses disciples, à chacun, comme il nous parle à chacun. Mais j'y vois un deuxième niveau de lecture qui est communautaire. Et je fais un parallèle avec Exode 20. Exode 20, c'est le passage où Moïse est sur la montagne, il descend de la montagne vers le peuple, avec vers les 12 tribus, et il apporte ses 10 commandements que Dieu a donnés. Et c'est la base de cette nouvelle relation de Dieu avec son peuple. Et ces 10 commandements que Dieu donne, c'est pas le moyen de sauver le peuple. Puisque le peuple, il était sauvé de l'esclavage avant. Mais maintenant que le peuple est délivré d'esclavage, Dieu va donner par l'intermédiaire de Moïse, quelque part, cette base de la relation entre Dieu et son peuple, et puis comment le peuple d'Israël, chacun dans le peuple, doit se comporter. C'est quoi les valeurs du peuple d'Israël, et on trouve dans les 10 commandements. Et si je fais le parallèle ici, Jésus, après avoir prié son Père, descend vers le peuple et il va parler à ses 12 disciples, il va parler à cette communauté de disciples et il va faire ce discours extrêmement fort où il va présenter comment on se comporte dans sa communauté, dans le royaume de Dieu, puisque c'est plutôt ça l'expression biblique. Comment on se comporte dans le royaume de Dieu, dans la communauté des disciples ? Qu'est-ce que Dieu attend ? Et donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui dans ces valeurs communautaires, on va voir deux choses. Enfin, quelque part, les valeurs, et je vais y revenir. La deuxième chose, c'est comment on se comporte avec les gens qui ne sont pas de cette communauté de disciples, et en particulier envers les ennemis. Et donc on l'a lu tout à l'heure, vous avez 4 fois heureux et 4 fois malheureux. Et ils se répondent. En fait, ça correspond exactement, malheur à vous riches, heureux les pauvres, etc. Et je l'ai un peu résumé, je l'ai très légèrement modifié. Quand je dis modifié, c'est pas que je torde la parole, c'est juste pour mettre des mots qui des fois correspondent plus à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Heureux les durs, heureux les pauvres, et j'ai rajouté la faiblesse. Heureux ceux qui sont dans le manque. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont exclus et rejetés. Et puis juste après, il dit malheureux. Malheureux ceux qui sont riches, et j'ai mis puissants. Malheureux ceux qui sont dans le confort. Malheureux ceux qui sont dans le confort. Malheureux ceux qui sont dans la joie. Malheureux ceux qui sont reconnus des autres, qui sont acceptés. Et si on lit de premier abord, est-ce qu'il y a des volontaires ici ? Est-ce qu'il y a des volontaires pour suivre le Christ ? Pour être pauvre, pleurer, être rejeté ? Ceux qui veulent suivre le Christ lèvent la main. Ça fait plaisir que vous leviez la main. Mais de prime abord, ce texte, si on le lit brutalement, c'est choquant. Et forcément, il le fait de manière un peu radicale de projeter sur des valeurs de ce monde. Si vous écoutez ce monde, et ce monde va vous dire que vous serez heureux si vous êtes riche, heureux si vous êtes dans le confort, Heureux si vous avez la joie parce que vous réussissez. Heureux parce que les autres vous reconnaissent et que vous avez plein d'amis. C'est ça les valeurs de notre monde. Mais les valeurs de la communauté des disciples, ce n'est pas celles-là, ce sont les autres. Il veut dire plusieurs choses. Il veut dire que déjà dans le royaume de Dieu, dans la communauté des disciples, il y a place pour la tristesse, il y a place pour la faim, il y a place pour le rejet. C'est normal. Alors comment le comprendre, ce texte, puisque il ne s'agit pas de rechercher la pauvreté. Il ne s'agit pas de dire parce que tu es riche, malheur à toi. C'est plus complexe que ça. Et si tu veux cliquer, je le reformule peut-être pour qu'on le comprenne mieux. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut accueillir les difficultés, la pauvreté, les pleurs. Et je peux accueillir ça parce que Dieu règne. Si un homme de ce monde, un homme qui ne connaît pas Dieu, perd son emploi, sa rémunération, qu'il est rejeté par sa famille, il sera dévasté, il sera le plus malheureux des hommes. Mais dans le royaume de Dieu, si on est, comme on le verra plus loin, fils de Dieu très haut, ce que je suis n'est pas détruit lorsque je perds mes biens ou que je suis rejeté. Je reste le fils de Dieu, un enfant de Dieu, qui est heureux parce qu'il connaît Christ et parce qu'il sera consolé dans ce monde et au ciel. Et c'est pour moi un véritable encouragement, c'est que dans cette communauté des disciples, on est béni à travers nos difficultés. On ne va pas lire les versets, mais vous trouverez de nombreux versets qui expliquent que Dieu va tourner en bénédiction nos difficultés. Qu'il peut faire que toute chose se transforme en bénédiction. Et qu'à travers parfois la souffrance, parfois les pleurs, parfois le deuil, parfois le rejet, il me transforme, il transforme mon caractère. Christ ne cherche pas mon confort. Il cherche mon caractère pour qu'il lui ressemble. Et puis par rapport aux richesses, il s'agit de s'en méfier. Se méfier des richesses, du succès. Se méfier du fait que tout le monde, quelque part, nous accepte. Est-ce qu'il y a peut-être un piège ? Lorsque je suis riche, lorsque j'ai l'impression de ne manquer de rien, Seigneur, dis méfiance à vous. Peut-être que je suis en train de m'endormir. Peut-être que je suis en vrai danger spirituel. À travers la parole, on voit combien Jésus a nombreuses fois, et Paul aussi, montré combien la richesse était un piège qui éloigne de Dieu. On pourrait parler du jeune homme riche, on pourrait parler de l'opposition entre Dieu et Mammon. La réussite est aussi un piège parfois. Et à travers l'histoire des rois d'Israël, on voit combien certains se sont égarés parce qu'ils avaient réussi. On pourrait parler de David, on pourrait parler d'Élie. La communauté de l'agneau, la communauté des disciples n'est pas une communauté de vainqueurs riches, puissants, qui ne manquent de rien. Mais c'est une communauté où il y aura des difficultés, il y aura des difficultés. Mais on est béni dans cette communauté parce qu'on connaît le Christ. Et j'ai rajouté, heureux le Christ, puisque tout ce qu'il a dit, il l'a vécu. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui sont rejetés. Non seulement il le dit, mais il l'a vécu. quand on lit ces deux textes, ça tranche vraiment avec parfois une vision de la vie chrétienne qu'on peut parfois entendre, où la vie chrétienne doit être quelque part avec un soulagement immédiat, où la vie chrétienne doit apporter épanouissement, confort, richesse dans ce monde. C'est pas ce qu'a vécu notre Seigneur et c'est pas ce qu'il propose comme chemin à ses disciples. Et ce texte, on peut le prendre pour nous, mais on peut le prendre pour mon regard sur les autres. Lorsque je vis avec mes frères et sœurs, est-ce que j'accueille d'abord celui qui souffre, celui qui est rejeté? Est-ce que je me réjouis parfois pour lui? Parce que s'il traverse une difficulté, c'est que Christ travaille en lui et qu'il transforme son caractère. Et lorsque mon frère a une très belle promotion, une belle situation, est-ce que je me réjouis pour lui ou est-ce que parfois je crains qu'il ne se laisse piéger par ça? Est-ce que nous ne sommes pas pollués par les valeurs de ce monde qui ne sont pas celles de l'agneau? Et ça doit nous faire réfléchir aussi sur notre vie communautaire, notre vie d'église. Est-ce qu'on est tourné vers les plus faibles? Christ a toujours été avec les pauvres. Est-ce que la scène 28 voudrait développer un aspect plus social qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place? Ça doit probablement nous interroger sur ce que nous pourrions faire. Et je vais vous partager, je le ferai deux fois, parce que je trouve que c'est un texte qui est difficile, parce qu'il est extrêmement exigeant pour nous. Et qu'en préparant ce message, deux fois de suite, Dieu m'a dit « Stéphane, je t'attends là. » En préparant ce message, il y a un moment où Dieu m'a dit « Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Il m'a rappelé que quand j'étais à Chalon-sur-Saône, il y a quelques années, la communauté des assemblées de Dieu avait organisé une soupe populaire. Une soupe populaire où tous les soirs, tous les sans-abri pouvaient venir se mettre au chaud et prendre un repas. Et il y avait environ 80 volontaires qui, chaque soir, préparaient le repas et puis servaient ces personnes. L'objectif était non seulement qu'ils puissent avoir un repas gratuitement, mais qu'en plus ils soient à table. Et quand ils soient à table, ils n'aillent pas servir. Je suis là pour servir celui qui n'a rien. Et j'ai été vraiment heureux et béni de faire ça il y a quelques années. Et cette semaine, Dieu m'a dit, mais t'en es où? J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, cette semaine, il m'a questionné sur mon engagement, sur cet aspect-là. On va continuer avec une deuxième partie après les valeurs de cette communauté. C'est comment je traite ceux qui ne sont pas dans cette communauté. Et il commence par l'extrême, ceux qui s'opposent, les ennemis. Évidemment, ce qu'on va voir s'applique évidemment dans la communauté. C'est tellement évident, mais il s'occupe de ceux qui sont à l'extérieur. Et il nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Avec, à travers ces mots, moi je vois deux choses. Je vois une partie interne qui fait référence à notre cœur, parce que c'est par là que ça commence. De prier et d'aimer. Il y a un travail intérieur d'aimer ses ennemis. Et puis il y a un travail extérieur, il y a des actes qu'il faut poser, de faire du bien avec des actes pratiques d'amour. Toutes les communautés de ce monde, quelles qu'elles soient, quel que soit le groupe, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, qu'il soit tout groupe humain, va chercher à réunir la communauté, son groupe, et à rejeter les autres. Les gens de droite avec les gens de gauche. Les patrons, les syndicalistes, les gens de les différentes religions. C'est toujours ma communauté. Et puis je vais rejeter ceux qui ne sont pas de mon groupe. Et la Christ a un message d'une force incroyable, de radicalité, c'est vraiment éblouissant. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé Gandhi. J'ai lu plusieurs livres de Gandhi parce que je trouvais sa théorie de la non-violence remarquable. Mais c'est sans commune mesure avec ce que propose le Christ. C'est une non-violence politique qui est intéressante humainement, mais ce que propose Christ est vraiment éblouissant. Éblouissant aussi parce qu'il l'a vécu. C'est une chose de dire « aimez vos ennemis », c'est tellement plus difficile de le faire. J'ai juste cité trois exemples. Il est sur la croix, mais il prie « Père, pardonne-leur ». Lorsqu'ils sont venus l'arrêter et que Pierre a tiré son épée pour couper l'oreille de l'esclave, Christ a juste soigné ceux qui étaient venus l'arrêter. Et puis, le troisième exemple, c'est lorsque Judas va le trahir par un baiser, Jésus ne va pas l'incendier en le traitant de traître, il va l'appeler mon ami. La prochaine fois que quelqu'un vous trahira, essayez de l'appeler mon ami. C'est pas naturel. Mon ami à celui qui le trahit. Et vraiment, c'est quelque part l'extrême, puisqu'il parle vraiment des gens qui maltraitent, qui persécutent. Mais le principe qui est derrière, pour moi, c'est la non-réciprocité. Et il le développe plusieurs fois, il se répète, hein, le texte est répété pour dire que si j'aime que ceux qui m'aiment, je ne fais rien de particulier. Même les pires des pécheurs ne font pareil, si j'aime ceux qui m'aiment. Ce qu'il me demande, c'est d'aimer ceux qui ne m'aiment pas. D'aimer sans attendre en retour. Prêter sans attendre retour. Et c'est un deuxième point. Dieu, cette semaine, m'a dit, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ton raisonnement, dans ce que tu vis. Et là où il m'a touché cette semaine, c'est que parfois, je suis pollué par l'esprit de ce monde et je réfléchis à ce que je fais en fonction de ce que ça va déclencher, en fonction des conséquences. Je raisonne dans ma tête, parfois dans mes relations, quelque part, qu'est-ce que ça va me rapporter? Quel sens ça a? Non, non, Dieu me dit, aime sans attendre en retour. Prête, n'attends rien. Aime. Ne pense pas à ce qui va se passer derrière. Aime, prête. Aime sans rien attendre. Je voudrais m'attarder maintenant, si tu peux passer, sur le verset 35, qui pour moi est un verset clé. Vraiment clé. Parce que si je le relis, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les disciples. Si je le lis en première lecture, je pourrais dire, mais voilà, j'aime mes ennemis, je fais du bien, je fais cela, et alors je serai fils du Très-Haut. Le chemin pour être fils du Très-Haut, c'est faire cela. J'accomplis cela, et alors je serai enfant de Dieu. Je pense que vous savez bien, et toute la parole le dit, que c'est pas ça. Ce n'est pas en accomplissant cela que je vais convaincre Dieu de ma justice et que je pourrai être fils du Très-Haut. Christ ne donne pas ici une liste de principes dans son sermon à suivre qui fera que je suis un enfant de Dieu. Il partage ce qu'il attend de ses disciples une fois qu'ils sont fils du Très-Haut. Fin du verset 35, parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Alors j'ai déjà répondu quelque part, mais quand il dit « qui est vous ?», quand il est dit « vous serez fils du Très-Haut », il parle clairement de ses disciples, de ceux qui l'a fait fils du Très-Haut. Mais quand il est dit « il est bon pour les ingrats et pour les méchants », c'est qui les ingrats et les méchants ? piège. Hein. Quand il dit ça, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Oh. Oh, j'ai pas entendu. C'est tous ceux de la foule. Mais pour moi, ce qu'il veut dire, évidemment, c'est tous, et c'est moi aussi. Mais je pense que c'est d'abord ses disciples, c'est d'abord les mêmes qui vous serez fils de Dieu. Et Jésus leur dit, mais méchants comme vous êtes, ingrats comme vous êtes, c'est à vous que je parle. Vous ne pouvez pas accomplir ça. C'est impossible que vous aimiez vos ennemis. C'est impossible. Vous êtes méchants. Foncièrement méchants. Et je suis foncièrement ingrat et méchant. Et je ne peux pas accomplir ce qu'il me demande. Impossible d'aimer mes ennemis. Et pour moi, on voit dans ce texte le salut en filigrane. Le salut, il n'est pas clairement exposé pour moi, mais on le voit là. On sent ce que Dieu me dit, Stéphane. Ton cœur est foncièrement méchant, ingrat. Tu ne peux pas satisfaire ce que je demande. C'est impossible. Par contre, je t'ai aimé. Fin du verset 35. J'ai été bon avec toi. Je t'offre la grâce par Jésus-Christ. Et je te fais fils du Très-Haut. Alors, lorsque tu seras fils du Très-Haut, tu pourras, parce que je vais te transformer, manifester ça, manifester et me ressembler et aimer tes ennemis. Et là, s'il y a certains dans la salle qui ne sont pas chrétiens, comme on dit, et qui n'aiment pas vraiment les chrétiens, certains n'aiment pas les chrétiens. Parfois, ils ont raison. Parce que souvent, les chrétiens, ce qu'ils ont un truc, c'est qu'ils se croient justes, ils se croient bons, et ils ont parfois un regard assez méprisant sur les autres, parce qu'ils n'ont pas une vie comme il faut, etc. Ils se sentent un peu jugés. Beaucoup se sentent jugés par les chrétiens parce qu'ils la regardent de haut. Et pour moi, c'est pas ça la communauté de l'agneau. C'est pas ça la vraie communauté des disciples. La communauté des disciples, c'est pas celle qui fait des efforts et qui peut s'enorgueillir d'aimer ses ennemis. La communauté des disciples, c'est celle qui sait que foncièrement, elle est d'abord méchante et ingrate. Et qu'elle a pas. C'est pas parce qu'elle a fait, mais c'est par la grâce. Et tous ici, tous ceux qui ont fait ce choix, il faut qu'on se souvienne que on est foncièrement une communauté de méchants, d'ingrats, de voleurs. Et qu'on est juste sauvé par grâce. Et quel qu'il soit pasteur, il est d'abord foncièrement méchant. Qu'il soit ancien, il est d'abord foncièrement méchant. Mais par la grâce, Dieu m'a sauvé. Et je n'ai pas à être fier de ce que je peux faire. Je suis simplement sauvé par grâce. Alors certains vont me dire, oui mais l'Église, elle ne ressemble pas vraiment à ça. Hein. On est d'accord, hein. Si je consors notre vie d'Église avec ce que je lis dans le texte, c'est un petit peu décalé. Hein. Et justement, il ne faut pas qu'on oublie que à la base, l'Église et la communauté n'est pas une communauté de gens parfaits, mais une communauté de gens qui étaient méchants et que Dieu a renouvelé, transformé, et qu'il transforme chaque jour. Alors l'Église est imparfaite, cette communauté est imparfaite, mais Dieu la construit et la transforme. Le dernier point me semble important, parce que si je veux pouvoir aimer mes ennemis, si je veux pouvoir prier pour eux, si je veux pouvoir faire du bien à mes ennemis, il est important que je mesure que mon corps était foncièrement méchant. Et que cet ennemi que je pourrais mépriser, somme toute que mon cœur n'était pas si différent du sien. Et si je mesure que, voilà, foncièrement mon cœur était comme le sien et que Dieu m'a aimé, alors je pourrais l'aimer. Si tu veux cliquer dans ce texte, Christ est venu quelque part un peu poser les fondements de cette communauté des disciples. J'ai appelé communauté de l'agneau pour un peu décaler le terme. Et il n'y a que deux possibilités. Ce texte est extrêmement, comment dire, clivant, et on le verra dans la deuxième partie. Il y a ceux qui vont suivre et ceux qui ne suivront pas. Et s'il y a dans cette salle quelqu'un qui n'a pas fait ce choix de répondre à l'appel, voilà, je l'invite vraiment à être ébloui par ces paroles de Christ et à aller plus loin. Christ n'a pas donné ici le moyen d'entrer dans cette communauté en faisant les choses. Il n'a pas donné le moyen d'être fils du Très-Haut. Le chemin, c'est celui de la reconnaissance que je suis un ingrat et méchant et que je ne peux satisfaire la justice de Dieu. Je ne peux que demander grâce, répondre à son appel. Il me fait fils du Très-Haut. Il me transforme. Et alors je pourrai adopter ses valeurs, je pourrai lui ressembler, aimer mes ennemis. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début pour les vieux routards de la vie chrétienne. Je vous invite à, quelque part, renouveler votre engagement. Parce qu'il y a, certes, c'est Dieu qui me transforme, mais on a notre engagement, on a notre volonté de rentrer dans ce chemin. D'obéir, on a chanté le chant avec Olivier, le dernier chant, c'est « Parle car je veux t'obéir ». Puisque maintenant nous sommes fils du Très-Haut, obéissons, vivons cela. Engageons-nous dans ce chemin. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous voulons ensemble te redire combien tu es éblouissant. Éblouissant par tes paroles, par ta vie. Combien personne n'est comme toi, combien nul autre ne saurait te ressembler. Tu es celui qui sait toucher nos cœurs par tes paroles. Seigneur, on est heureux parce qu'on te suit. On est heureux parce qu'on est avec toi. On est heureux malgré les difficultés. Parce que tu es avec nous, tu nous consoleras maintenant et dans l'éternité. Seigneur, je te prie de purifier nos cœurs. D'implanter au plus profond de notre volonté le désir de te suivre, de te ressembler, d'aimer sans rien attendre.